C'est avec grand plaisir que je suis avec vous et je remercie Rachel, Lydia et tout le comité d'organisation d'avoir donc fait appel à moi pour cette étude biblique sur le livre de Daniel et plus particulièrement, je vous propose de lire ensemble le chapitre premier, tout simplement, de Daniel. Avant quoi, je vous propose de prier. Notre Dieu, toi, Dieu trinitaire, le Père créateur, toi le Fils, Jésus-Christ, médiateur de notre salut, mais aussi de la création, toi, Saint-Esprit, qui soutiens, conserve le monde par ton action bienfaisante, nous voulons te rendre gloire et te remercier pour la liberté que nous avons ce matin de nous mettre à l'écoute de ta parole. Enseigne-nous, éclaire-nous, guide-nous tous les jours alors que nous essayons de témoigner dans la fidélité de l'amour et la grâce que tu nous as donné en Christ, lui qui est le seul parfait, véritable témoin. Amen. Daniel 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur lui livra Joachim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Le roi emmena le trésor au pays de Shinar, dans la maison de ses dieux, et il mit les objets dans le trésor de ses dieux. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses hauts fonctionnaires, d'amener quelques Israélites de la descendance royale ou parmi les familles des nobles. Des garçons sans défaut corporel, beaux, doués de toute sagesse, de connaissance et d'intelligence, aptes à se tenir dans le palais du roi à qui l'on apprendrait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, 3 années au bout desquelles ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des hauts fonctionnaires leur imposa des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel, lui, s'imposa de ne pas se souiller avec les mets du roi, ni le vin dont il buvait. Il supplia le chef des hauts fonctionnaires de ne pas l'obliger à se souiller ainsi. Et Dieu accorda la faveur et la compassion du chef des hauts fonctionnaires à Daniel. Le chef des hauts fonctionnaires lui dit « Je crains mon maître, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi vous trouverait-il de moins bonne mine qu'aux autres garçons de votre âge? En faisant cela, vous me feriez risquer ma tête devant le roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des hauts fonctionnaires avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, « Nous sommes tes serviteurs. Mets-nous, je t'en prie, à l'épreuve pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des garçons qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec nous, d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les mit à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les garçons qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant enlevait les mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. Dieu donna à ces 4 garçons de la connaissance, du discernement, dans tout ce qui concernait les lettres et la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Au terme fixé par le roi pour les lui amener, le chef des hauts fonctionnaires les amena devant Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Parmi eux tous, il ne s'en trouvait aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se tinrent donc devant le roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et les enchanteurs qui étaient dans tout son royaume. Telle fut l'existence de Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Et jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, le livre prophétique de Daniel se situe à un moment crucial de l'histoire du peuple d'Israël, comme vous le voyez bien, se déroulant en des temps politiques absolument désastreux pour les deux royaumes d'Israël et de Juda. C'est un temps d'exil, d'abandon, de défaite, où absolument tout laisse à croire que Dieu a pris son peuple au mot. Ce peuple qui, depuis longtemps, ne rêve que d'une chose, contrôler son propre destin, ce peuple se retrouve peut-être là, pris au mot par Dieu lui-même. En tout cas, selon toute apparence, ce livre de Daniel est crucial pour la lecture même du Nouveau Testament, car il sert, par sa nature apocalyptique, d'arrière-plan, par exemple, aux apocalypses de Matthieu, et surtout au livre de l'Apocalypse. Mais ce matin, donc, nous avons lu ce premier chapitre de Daniel, et c'est sur ce chapitre-là, et non sur les derniers, que nous allons nous concentrer. Ce chapitre qui fait parfois un petit peu cliché, qui se prête bien aux études bibliques, voire aux histoires racontées pour enfants, et c'est très bien, mais peut-être avons-nous, à force d'avoir entendu les histoires de ce Daniel, qui est un grand exemple de foi et de persévérance, peut-être avons-nous perdu un petit peu l'ampleur de ce qui se passe dans ce premier chapitre. Chapitre historique, mis en contexte historique, et pourtant il se passe ici beaucoup plus que ce à quoi nous aurions pu nous attendre à première lecture. Voire même, si nous le lisons trop souvent, perdons-nous encore plus de la profondeur de ce qui se passe ici dans le premier chapitre de Daniel, surtout qu'il nous met en présence d'une confrontation presque qui s'annonce assez radicale entre Dieu et les idoles, qui est un thème récurrent dans le livre de Daniel. Tout commence pour Daniel par une énième incursion babylonienne par celui qui allait devenir le roi de Babylone. Vraisemblablement, au moment où Nebuchadnezzar assiège Jérusalem, il n'est pas encore roi, mais il est le dauphin. C'est pour ça que le titre de roi lui est donné un petit peu a posteriori. Ce qui explique quelques problèmes de datation. Les spécialistes vétérotestamentaires connaîtront tous ces détails. Nebuchadnezzar II, roi fameux d'ailleurs pour avoir fait construire les fameux jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique, légendaire jardin suspendu, puisqu'on questionne un petit peu quand même la vraisemblance de l'aspect historique de ces jardins, mais aussi Nebuchadnezzar, connu pour avoir été l'un des fondateurs de l'un des plus grands et des plus puissants royaumes mésopotamiens, l'Empire néo-babylonien, qui malheureusement ne durera, comme c'est souvent le cas avec la gloire des hommes, que environ pendant un siècle, entre 626 et 539 avant Jésus-Christ, bien sûr. Après que le roi de Juda se soit rendu, vraisemblablement sans même que Nebuchadnezzar ait besoin de vraiment complètement assiéger Jérusalem, voici Daniel et ses trois amis, avec une partie du trésor du temple, en route vers Babylone. Et il faut imaginer un petit peu le traumatisme, encore une fois, que représente un temps d'exil. Et je dis essayer, car je ne suis pas certain que nous puissions arriver à nous imaginer ce que cela pouvait représenter. Le glorieux butin de Nebuchadnezzar, hommes et choses, sont ramenés dans la capitale, Babylone, dans la plaine de Shinar. Et avec ce nom-là, commence le contraste radical que l'auteur du livre de Daniel construit entre Dieu, présence de Dieu, et les idoles, relation avec les idoles. Puisque ce mot-là, Shinar, cette plaine-là, représente quelque chose de très fort dans le langage vétérotestamentaire. Il serait très facile pour nous de n'y voir là, en fin de compte, comment dire, qu'une indication géographique. À Babylone, dans la plaine de Shinéar, là était le roi Nebuchadnezzar. En fin de compte, il faut voir un petit peu plus loin. Il faut remonter un petit peu plus loin dans l'histoire du peuple pour prendre conscience que chez les auditeurs, chez les lecteurs du livre de Daniel, la première chose à laquelle renvoie ce terme-là, la plaine de Shinéar, c'est la construction de la tour de Babel. Shinéar, qui en plus, dans le livre de Daniel, dans le langage de Daniel, est un terme un petit peu rugueux, archaïque, qui frappe les oreilles, qui marque quelque chose d'important. Plaine de Shinéar, lieu par excellence, presque l'archétype de la confusion et de l'idolâtrie. La tour de Babel, ces hommes qui, selon l'un des Targoum de l'Ancien Testament, dirait même, construisons une tour et faisons à son sommet une idole, plaçons un glaive dans les mains de cette idole, qu'elle forme contre Dieu des formations de combat avant que nous ne nous répandions sur toute la terre. Babel, c'est l'orgueil humain certes, mais c'est la dispersion, c'est la confusion originelle presque. Et voici que des centaines d'années, milliers d'années après la venue d'Abraham, ce pèlerin qui lui sort hors de la confusion, appelé par Dieu pour être l'un des jalons, l'une des étapes majeures du salut, de ce témoignage de la présence de Dieu, cet exil hors de la confusion, voici que Daniel, lui, se retrouve en exil, fait le chemin inverse et se retrouve plongé dans la confusion. Et non seulement Daniel, mais en fait, par Daniel, tout le peuple même. Symboliquement, c'est vraiment le peuple entier d'Israël qui est plongé dans cette confusion. Comment donc Daniel va-t-il pouvoir vivre sa foi en ce Dieu d'alliance, ce Dieu fidèle, ce Dieu de l'Ancien Testament, en qui, vraisemblablement, il continue à croire et à mettre tout son soutien? Comment continuer à vivre cette foi, non pas seulement la croire, mais à la vivre, au milieu de la confusion, confusion des pensées, confusion des idées, confusion des idéologies, pourrait-on même aller jusqu'à dire? Voilà qu'avec cette question, nous entrons de plein pied dans le monde de Daniel. Et avec cette question-là, nous arrivons avec lui à Babylone. Et il faut vous imaginer, là, encore une fois, nous imaginer, si nous le pouvons, arriver dans la capitale babylonienne. Il faut vous imaginer voir de loin ces murs imposants et se dresser la ziggourate, cette haute tour, qui peut-être, à l'image de la tour de Babel, voulait toucher jusqu'aux cieux. Il faut vous imaginer passer par les resplendissantes porte de Babylone, voir ces jardins suspendus, voir la beauté, la technique même, le génie scientifique, à proprement parler même, de Babylone. Et vous posez cette question-là, ou peut-être l'a-t-on posée même à Daniel, au moment où il arrive avec les autres déportés. Que suis-je comparé à tant de splendeur? Que suis-je comparé à tant de découvertes, d'avancées scientifiques, technologiques? Qu'est-ce que Dieu comparé à toutes ces splendeurs? Ce Dieu d'Israël qui a pourtant laissé son peuple en exil. Et peut-être que cette question-là trouve écho dans nos pratiques, dans nos milieux, dans nos professions, dans nos études. Au milieu de toutes les découvertes, de toutes les avancées, de la science, bon, de la philosophie aussi, hein, ma foi. Que sommes-nous? Qu'est la présence de notre Dieu au milieu de tout cela? Question importante parce qu'elle nous met réellement face à face avec le monde dans lequel nous vivons. Et face à face, pas tellement comme une confrontation uniquement, mais comme une relation qui interroge réellement la place de notre foi dans toutes nos activités. Je passerai sur le contexte religieux de Babylone, fait de milieux de Dieu, Simplement pour souligner une chose, et une chose importante, c'est que le premier chapitre de Daniel et ceux qui vont le construire par la suite montrent une chose importante qui se fait, qui se dévoile à nos yeux et à nos oreilles avec Daniel, c'est que petit à petit se construisent des visions du monde assez différentes. Petit à petit, Daniel amène toute une vision du monde biblique confrontée à une vision du monde religieuse et même très humanisante presque, qui est celle de Babylone. Un commentateur a bien résumé la situation en disant que les deux contextes, les deux visions du monde, celle de Daniel et celle de Babylone, mettent face à face une conception, une vision du monde biblique centrée sur la fidélité du Dieu créateur et une vision du monde religieuse, mais d'une religiosité formelle qui en réalité met un petit peu l'accent sur la place et la grandeur de l'homme. Le roi qui, dans Daniel 4, lui dira « Mais n'est-ce pas moi qui ai bâti cette ville ? N'est-ce pas moi qui suis à l'origine de toute cette grandeur ?» En cela, l'auteur du livre de Daniel nous encourage dès ce verset. Il encourage tous les croyants qui font face à ce défi, vivre la foi dans un milieu d'études, de pratiques, de professions, alors, allant de, on pourrait dire, de l'indifférence à l'hostilité, parfois une indifférence curieuse, mais dans un contexte religieux quand même marqué par la difficulté, par l'opposition. En tout cas, c'est le contexte de Daniel. Daniel nous encourage et nous exhorte même à prendre conscience qu'il y a toujours deux réalités qui coexistent. Celle que nous voyons, la victoire militaire de Nebuchadnezzar sur Jérusalem, la déportation, la puissance de Babylone. Une observation naturelle et l'interprétation spirituelle, théologique. C'est Dieu qui a livré Jérusalem entre les mains de Nebuchadnezzar. Deux réalités qui coexistent et qui ne peuvent pas être séparées, elles ne peuvent pas être comprises l'une sans l'autre. À vue humaine seulement, simplement au point de vue, j'allais dire, naturel de l'observation des faits, Nebuchadnezzar et ses dieux sont plus grands que le dieu de Jérusalem. Et pourquoi cette affirmation est-elle, en fin de compte, erronée? C'est parce que l'observation seule doit être bâti sur une vision du monde qui est celle de la présence du Dieu créateur, du Dieu de l'Alliance, du Dieu rédempteur. Pour aller un petit peu plus loin, un tout petit peu plus loin, puisque je vois qu'il est déjà moins 5, au verset 6 de ce premier chapitre s'ouvre le deuxième mouvement. Premier mouvement qui est l'exil, versets 1 à 5, deuxième mouvement du premier chapitre de Daniel, qui est une démonstration de résistance passive de Daniel face à cette vision du monde babylonienne. Versets 6 à 16. Alors attention, quand je dis résistance ou opposition, n'allez pas imaginer que Daniel est un contestataire gréviste à la mode française. Il n'en est rien. Il est possible de résister à une vision du monde tout en, j'allais dire, en œuvrant à l'intérieur de cette vision du monde, puisque c'est le cas de Daniel. Daniel, sage parmi les sages, sage au milieu des Chaldéens. Mais cela ne suppose pas de la part de Daniel une acceptation de tout ce qui fait cette pratique chaldéenne. Deux temps de contestation, on pourrait dire, de la part de Daniel. Le premier qui est peut-être le plus difficile à discerner. Il concerne le changement de nom de Daniel et ses amis. Ce changement de nom, encore une fois, qui a priori pour être pris ou être considéré comme une simple commodité, il est quand même plus facile d'appeler quelqu'un par son nom babylonien que par son nom hébreu un petit peu archaïque et étrange. Petit exemple, quand j'étais aux États-Unis, nous avions, là où j'étudiais, à peu près un tiers d'amis coréens, de frères et sœurs coréens, dont les noms étaient, pour nous occidentaux, un petit peu difficiles à prononcer. Et par commodité, beaucoup d'entre eux prenaient des noms américains. Et c'est vrai que c'était plus facile. Hein. Par contre, moi qui travaillais avec eux, je me retrouvais avec 15 John Park, ce qui est un petit peu difficile à la longue. Mais c'est une réalité. Je les ai comptés. Donc, commodité. Il est plus facile de dire Belshazzar que Daniel. Vous avez compris l'ironie de cela. En tout cas, ici, c'est peut-être pas plus simple. Et pour les pelés, je vous passerai la difficulté. Cependant, là aussi, ce serait aller un petit peu trop vite. Pourquoi ? Premièrement, le changement de nom, le don de nom, sert, dans la révélation biblique, à marquer des époques importantes de l'étape dans l'histoire de la révélation, dans l'histoire du salut. Pensez par exemple au changement de nom d'Abraham, de Sarai, voire même de Jacob qui devient Israël. Pensez aussi à ce changement de nom de Jean le baptiseur, qui n'aurait a priori jamais dû s'appeler Jean, si Zacharie, son père, avait eu son mot à dire. Pensez aussi, symboliquement, à ce nouveau nom qui sera donné aux croyants, tel que nous le dit le livre de l'Apocalypse. Le changement de nom n'est jamais anodin. D'autant plus qu'ici, clairement, ce qui est symbolisé, c'est que le roi devient propriétaire des quatre jeunes gens. Donner un nom, c'est appartenir. Première chose. Deuxième chose, en fin de compte, les noms, les nouveaux noms qu'on leur donne, et je prendrai l'exemple donc de Daniel, Belshazzar et de Azaria, Abednego, en fin de compte, ces noms-là, au sens babylonien du terme, ne veulent strictement rien dire. Pourquoi ? Parce que Belshazzar et Abednego comportent des altérations des noms qui furent vraisemblablement donnés à Daniel et à Azaria. Commençons par Daniel. Belshazzar, nous disent les experts. Alors, je me suis renseigné, je suis allé lire, parce que je ne suis pas expert en hébreu, araméen et autres langues sémitiques. Vraisemblablement, le nom premier qui fut donné à Daniel est Belshazzar. Donc, il y a un T qui disparaît. Belshazzar, qui, selon toute vraisemblance, est un nom commun à Babylone, et qui, en plus, est le nom de l'un des rois suivants. Si vous prenez Daniel 4 et 5. Clairement ici, l'altération de Belshazzar en Belt-Shazzar sert à montrer une contestation affirmée de Daniel. Ce qui est souligné de manière encore plus flagrante dans Abednego, qui, lui, selon toute vraisemblance, signifie serviteur de Nabou qui était un dieu donc babylonien. Et là aussi, vous constatez, en écoutant un petit peu plus les lettres qui forment la base de ces deux termes, de ces deux mots, de ces deux prénoms, Abed Nego, avec un G en français, qui lui est donné, qui nous est rapporté dans le texte, Nabou avec un B, Abed Nebo, selon toute vraisemblance, le nom qu'il aurait dû porter. Altération qui est tout à fait importante et qui marque une certaine contestation, un refus d'imposition babylonienne de la part de Daniel et Azaria. Il en est de même pour les deux autres. L'altération est encore plus difficile à expliquer. Abednego, du coup, dont l'altération est encore plus significative, puisque le dieu Nabou était celui qui, dans la mythologie babylonienne, était et inscrivait le destin de chaque homme sur des tablettes. Par le refus de porter ce nom, serviteur de Nabou, clairement, ce qui est dit ici, c'est le refus de se soumettre symboliquement, ne serait-ce que symboliquement, un dieu qui contrôlerait la destinée de ces quatre jeunes hommes. C'est le refus d'une providence babylonienne. Pourquoi ? À cause d'une affirmation de la providence du dieu d'Israël, du dieu de l'Alliance. Première contestation, sur laquelle on pourrait passer assez vite, si on n'allait pas chercher le sens réel de ce qui nous est rapporté ici. La deuxième contestation, elle, est beaucoup plus simple et directe, c'est celle du refus des aliments consacrés aux idoles babyloniennes. Refus du vin, refus de la nourriture. Alors là aussi, j'avais prévu de passer un petit peu de temps sur les diverses explications. Passer en revue, je ne le ferai pas, par souci de temps encore une fois. Notez cependant avec moi que la souillure redoutée est tout autant morale que rituelle et théologique. Elle n'est pas que rituelle, elle n'est pas que obéissance à la loi, elle est aussi théologique, elle est diététique, sociopolitique et religieuse, pourrait-on aller jusqu'à dire. Mais ce qui prime, à mon sens, c'est là aussi de voir que la contestation alimentaire de Daniel est une remise en cause de la providence du roi, de la providence du roi et de son dieu Marduk. Pourquoi ? On fait la relation très claire dans l'Ancien Testament entre ce qu'on mange et ce qu'on est, entre avec qui on mange et qui on est. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui a été reproché à Jésus ? Il mange avec des pharisiens, des scribes, voire des collecteurs d'impôts. En mangeant avec eux, il s'associe avec eux, il devient comme eux. Et de la même manière ici, les mets de choix, cette portion de choix, qui est d'ailleurs toujours suivie de la mention du roi de Babylone, comme pour souligner la providence du roi, comme pour faire en sorte que Daniel et ses amis apprennent à ne s'en remettre qu'à la providence du roi de Babylone, apprennent à ne s'en remettre qu'au dieu de Babylone, et qu'ils deviennent ainsi de bons babyloniens, de bons chaldéens, de bons serviteurs de Babylone et de ses dieux. Daniel objecte, et là beaucoup plus fermement, beaucoup plus objectivement, à cette tentative d'assimilation. En passant sur le processus qui le conduit, ou qui conduit l'intendant à accepter leur demande, voici que ce qu'il faut noter, c'est ce moment de victoire, en fin de compte, ce test de foi est un succès pour Daniel. Mais notez quand même que s'il y a contestation de la part de Daniel, cette contestation est empreinte d'humilité. Il ne va pas manifester, il ne va pas, j'allais dire, vociférer devant Ashpenaz et intendant inférieur. Plein d'humilité, il va implorer l'intendant de le mettre au test. Et de manière presque miraculeuse, beaucoup de commentateurs se sont demandé quand même, au point de vue nutritionnel, ce qui se passait, puisque sans viande, sans vin, et avec seulement des légumes et de l'eau, Daniel et ses amis ont plus d'embonpoint que les autres. Alors, certains commentateurs pensent qu'il y a quelque chose de presque miraculeux qui se fait ici. Nous n'en saurons vraisemblablement jamais rien. Ce qui est dit et ce qui est affirmé, c'est la fidélité de Daniel aux règles de foi qu'il se propose de s'imposer et la fidélité de Dieu envers Daniel. Quelques applications pour nous, et je prendrai juste 2 minutes, par rapport à cette question qui est posée par Daniel, mais par cette journée aussi. Comment être croyant dans un milieu qui ne l'est pas ? Pour Daniel, c'est même au-delà. Comment être croyant dans un milieu tout à fait hostile à la foi que Daniel et ses amis professent ? Alors, je suis bien en peine de vous donner des réponses, puisqu'il me semble que Daniel ne fait pas face aux mêmes questions que nous. Tout simplement parce que Daniel est un savant au sens sagesse, peut-être plus philosophe même, sage au milieu d'un monde non-croyant, séculier, idolâtre ou hostile. Mais en fin de compte, le problème avec lequel nous sommes confrontés pour répondre à ces questions-là, mettre Daniel 1 en relation avec cette journée d'étude, c'est qu'en fin de compte, Daniel n'a pas le choix. Daniel, lui, ne se pose pas la question de savoir s'il peut être croyant au milieu d'un monde non-croyant, s'il peut être savant au milieu d'un monde non-croyant. Il est déporté, exilé, il n'a pas le choix. Cependant, une ou deux choses peuvent peuvent nous être utiles en considérant Daniel. Premièrement, si Daniel et ses amis sont sages parmi les sages, ce n'est pas premièrement à cause de l'enseignement des Chaldéens, de l'enseignement de Babylone, mais à cause d'un enseignement qui était déjà acquis et donné, celui qui était celle de la foi. Il y a donc chez Daniel et ses amis un présupposé, une construction de vision biblique, vétérotestamentaire pour Daniel et ses amis, qui, j'allais dire, sert de fondement à leur pratique professionnelle, si je pouvais dire ainsi. Et cette chose-là, cette nécessité-là, fondement théologique, fondement spirituel, fondement de foi, est absolument nécessaire pour Daniel. Deuxième chose, revenons sur cet aspect contestation, anticonformisme même, j'irais jusqu'à dire, de Daniel. Daniel, je pense, ne fixe pas de règles de ce qu'il faut exclure ou accepter dans un milieu savant ou scientifique. Ce que Daniel affirme cependant, c'est qu'il faut s'imposer à soi-même, dans sa conscience et dans sa foi, les limites au-delà desquelles le témoignage de la foi n'est plus possible. Daniel se fixe ces limites-là, afin que la foi fasse une différence, comme s'il y avait un témoignage différentiel de la foi, au-delà duquel la foi elle-même peut être compromise. Et c'est ce qu'on voit pour Daniel dans les chapitres suivants. Ici, le test de la foi est un succès. Plus tard, le test de la foi le met physiquement en danger. Et voilà les choses que Daniel, à mon sens, nous invite à faire, vous invite à faire en tant que scientifique chrétien. Et c'est une réponse qui est premièrement personnelle et c'est une responsabilité personnelle. Je serais bien en peine, moi, de vous dire quoi d'autre faire, puisque c'est une question qui est posée par la foi elle-même et par la pratique scientifique elle-même. C'est une relation entre les deux qui doit être faite par chacun. Mais ici, le livre de Daniel est à la fois un encouragement, un exemple, mais aussi un exemple d'opposition possible. Elle n'est jamais nécessaire et automatique dans la foi et dans la science. Elle peut arriver dépendant des circonstances, et c'est bien cela aussi que Daniel nous invite à faire. Dans toutes les circonstances, s'appuyer sur la foi et la fidélité en la foi que nous avons en Dieu. Merci.